En ces temps de pandémie, le moral du pays est au plus bas, celui des lycéennes et des étudiantes encore davantage. Et c'est pourquoi, durant le mois de mars, le magazine Elle leur a apporté son soutien à travers un site Elle Campus. Des articles, des interviews, des tutos pour préparer les femmes en devenir au monde du travail et à une société où les stéréotypes, hélas, ont la vie dure. Pour les aider également, je cite, à surmonter la crise, à reprendre confiance et à construire la société de demain. Elle va ressembler à quoi au juste la société de demain? Eh bien la réponse, peut-être au cours de la conférence organisée aujourd'hui au Conseil Général d'Île-de-France, diffusée aujourd'hui en live sur le site Elle Campus. Bonjour Florence Besson.
Bonjour.
Vous avez travaillé 16 ans au magazine Elle, vous en êtes partie pour apprendre l'agriculture,
oui.
Vous avez même écrit un livre là-dessus, Toucher Terre, puis vous avez renoué avec le magazine pour initier ce projet Elle Campus, qui relève davantage du coaching que du journalisme. C'est bien ça, je me trompe?
Alors, il y a trois parties dans ce Elle Campus. Il y a une partie mentorat, où il y a tout le groupe CMI qui s'est dit qu'il fallait absolument répondre aux questions des étudiants qui se sentent très isolés et que simplement être comme ça en digital, ça suffit pas, donc on leur répond, on répond à leurs questions chacun d'entre nous. Il y a aussi un deuxième volet qui est la conférence que vous avez annoncée tout à l'heure à 14h, et puis aussi donc ce site campus.l.fr qui en fait répond à leurs questions sur comment prendre soin d'eux, comment plus s'affirmer, comment surtout pour les femmes qui ont le syndrome de l'imposture, et surtout quels sont les métiers d'avenir, parce qu'en fait il y a beaucoup d'espoir et c'était ça qu'on voulait surtout lancer comme message.
D'où part cette idée et comment vous est-elle venue à vous spécifiquement, Florence Besson?
Alors, elle m'est pas venue à moi spécifiquement, Florence Besson. Elle est venue à tout le journal. On avait prévu de le faire l'année dernière, parce que le journal organise beaucoup d'événements. On a le Elle Active qui va fêter ses 10 ans, qui s'occupe du travail pour aider les femmes dans le monde du travail, puisqu'on en est encore très loin de l'égalité salariale. On a le Elle Green. Je suis revenue au journal pour m'occuper aussi du Elle Green, justement, qui a été
Green
lancé l'année
vert.
Dernière. Green comme vert, exactement. Ouais. Qui a été lancé l'année dernière avec Jane Goodall comme marraine. Donc, c'était vraiment chouette. On a le Elle Zen. Et là, on s'était dit l'année dernière, il faut faire un truc pour les étudiantes, parce qu'évidemment, le L, ça fait 75 ans qu'on accompagne tous les combats des femmes, c'était important qu'on soit là pour les jeunes. Et finalement, on l'a annulé pour cause de Covid, et cette année, je me suis dit, il faut absolument qu'on le fasse, c'est encore plus nécessaire que jamais.
Juste un mot de la conférence dont je parlais, ça sera aujourd'hui, ça viendra du Conseil Régional d'Île-de-France, c'est à quelle heure d'ailleurs?
C'est à 14h.
Qu'est-ce qui va se dire? On verra quoi?
Alors on verra, d'abord, des étudiants hyper engagés, parce qu'ils le sont tous, c'est une génération vraiment admirable, je suis dans le micro.
Ouais.
Ils le sont tous énormément. On va voir Camille Etienne, on va voir Elodie du coin d'Elodie, Camélia Jordana qui va aussi lancer un message d'espoir. Voilà, des étudiants qui se sont dit, cette année, foutu pour foutu, peut-être que je vais me lancer sur un truc pour Instagram, peut-être que...
Je souris à votre foutu pour foutu. Je pense à tous les étudiants qui nous écoutent, qui disent, c'est vrai, en fait, on est foutu.
Mais ce que je veux dire, c'est que si jamais on est démotivé, si jamais on se sent plus, on voit plus ses amis, et on peut se mettre à faire du crochet, se relancer, se dire est-ce que vraiment ça m'intéresse ce que je fais, voilà. Donc c'est des étudiants qui se sont dit, par exemple Camille Etienne, elle a arrêté Sciences Po pendant un an pour se dire, je vais me lancer à fond dans l'écologie.
Ouais.
Donc on va avoir ces messages-là hyper enthousiasmants. Ensuite on va faire un point politique avec Valérie Pécresse. Et après on va réfléchir à l'insertion professionnelle avec l'économiste Philippe Aguillon, avec aussi tout un point sur le digital. Parce que moi j'ai découvert ça là, je ne connaissais pas du tout. Mais il manque absolument beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes dans le digital. C'est absolument capital qu'elles s'impliquent dans la tech, dans tous ces domaines-là.
Bien sûr.
Parce que le monde est en train de se construire sans nous.
Ouais.
Par exemple la reconnaissance vocale, moi je ne le savais pas. C'est fait par des hommes qui ne pensent pas aux femmes, pas par misogynie, mais simplement parce que ça ne leur vient pas à l'esprit. Et du coup, les voix féminines sont moins bien reconnues.
Bien sûr, il y a beaucoup moins de femmes dans les études d'informatique. Il y a très peu de femmes qui sont codeuses. Alors codeurs, c'est ce qui rapporte. C'est pour ça que quasiment toutes les start-up sont faites par des hommes. Alors
Exactement.
Qu'une femme pourrait créer WhatsApp.
Et qu'en plus,
c'est que des mecs qui créent ça.
Et qu'en plus, au départ, c'était des femmes les codeuses. Il y avait même dans les années 60 des gens qui disaient « Oui, ça s'apparente au crochet, c'est le même genre. » Voilà,
ouais.
Ça c'est assez drôle. Et on a d'ailleurs des femmes de Station F absolument géniales qui seront là tout à l'heure pour encourager les étudiantes et les lycéennes à venir.
La Station F, c'est une pépinière de ces métiers 2.0. Il y a un sondage OpinionWay pour Elle qui révèle que 69% des jeunes entre 15 et 24 ans ont le sentiment qu'on ne leur propose pas de solution pour affronter le monde actuel. Vous aviez besoin de ce sondage pour vous lancer dans cette initiative, vous le pressentiez qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas?
On le pressentait, tout le monde sentait que les étudiants n'allaient pas. On voit bien autour de nous que d'abord on est tous un peu fragilisés, je pense que c'est important de le dire, il ne faut pas dire que c'est spécialement eux, on l'est tous, mais eux à 20 ans, un mois, c'est pas comme à 40 ans. Voilà, quand on est en train de tomber amoureux, d'avoir des... Voilà, donc c'est absolument capital d'être auprès d'eux. Et donc, on a fait sondage d'où il ressort aussi que les étudiantes et les lycéennes, femmes donc, pâtissent plus de la crise que les garçons.
Pour quelle raison ?
Il y a 11 points d'écart, 29% contre...
Comment on explique cet écart ?
Et alors, c'est parce que apparemment, sans tomber dans des clichés genrés, mais on a besoin de plus de sociabilité, de liens sociaux que les hommes. Bon, et en plus, paraît-il, enfin, il ressort de notre sondage, il y a aussi 10 points d'écart dans l'aide qui est reçue par les filles ou par les garçons. C'est-à-dire que les garçons reçoivent plus d'aide, leur mère leur font plus la cuisine. Vous voyez, une fille, on se dit, oh, elle va se débrouiller. Et donc, j'ai trouvé ça très intéressant de voir ça et de lancer ce message aux filles pour leur dire, bah, c'est normal que vous ne vous sentiez pas très bien, vous inquiétez pas, ne culpabilisez pas. Les crises d'angoisse, d'ailleurs, on apporte ces réponses sur le site. Les crises d'angoisse, ça s'apaise. Enfin voilà, plein de choses pour se remotiver.
Alors, sur votre site, on peut trouver des témoignages édifiants de jeunes filles. Un exemple.
On est juste abandonné face à des Zooms, face à nos ordinateurs qui peuvent planter, face aux petits frères et aux petites sœurs qui peuvent crier pendant qu'on est en cours. On ne peut pas continuer comme ça pendant des mois. On a été les oubliés. On est censé être les métiers de demain, les avocats, les médecins. Donnez-nous la formation pour. Donnez-nous les moyens d'y arriver. Donnez-nous les moyens de nous accrocher.
Ce que je vis depuis le début de cette crise, c'est un isolement qui me démotive un peu tôt au quotidien. J'ai brisé plein de relations comme ça. Je n'ai plus confiance en moi. J'envisage mon avenir avec beaucoup de crainte.
Alors, en cette période d'isolement social pour les étudiants, vous avez demandé aussi conseil à la responsable de l'orientation des étudiants chez Nightline. C'est un service d'écoute nocturne anonyme. Alors, on n'a pas trouvé le numéro de cette hotline, mais quand on clique sur le nom de Nightline, je vais arriver à le dire avec le masque, on découvre une annonce qui indique que Nightline propose des postes à pourvoir de directeur, de directrice en charge du pôle finance stagiaire. C'est du coaching ou c'est de l'embauche? On n'a pas tout à fait compris, nous.
Ah non, Nightline, c'est vraiment une association qui vient en aide aux étudiants. Nous, on les a interviewés, ils nous ont beaucoup aidés à construire notre programme, de même que qui est aussi une association qui répond aux problèmes psychologiques des étudiants. Et voilà, et non, c'est une hotline. Et juste là, pour vous donner une bonne nouvelle, les filles qui sont dans cette bande-annonce, comme elle a été pas mal vue, elles ont trouvé des stages. Parce que justement, il y a des gens qui se sont dit, ah ben les pauvres, on va les aider. Et en fait, on est aussi en partenariat avec Pôle emploi et d'autres entreprises. Et Pôle emploi nous a dit, pardon, qu'il y avait énormément de postes à pourvoir. Et voilà, pour dire qu'il y a un message d'espoir.
Et ça aussi, c'était une bonne nouvelle supplémentaire, c'est qu'il y a quand même des stages malgré le Covid, malgré le confinement. Culture Média continue. On a encore plein de questions pour vous. Florence Besson, à tout de suite. Nous sommes avec Florence Besson, journaliste qui a quitté le L, qui est revenue au L dans le métier, le magazine L, on dit le L, je ne sais pas pourquoi, alors qu'il n'y a pas de H. Et vous êtes sinon à l'initiative, mais vous portez ce projet L Campus pendant tout le mois qui vise à aider les étudiantes et les lycéennes. Parmi toutes les vidéos qu'on peut trouver sur le site, il y a celle où on trouve Nathalie Bayou. Elle est account director, je ne sais pas ce que c'est, chez LinkedIn. LinkedIn, c'est une plateforme qui met en relation des gens, c'est une plateforme plutôt professionnelle. Et elle explique comment gérer son profil sur son réseau. Écoutez ses conseils.
Le CV, c'est une bonne idée. N'hésitez pas à mettre une petite phrase d'accroche avant le CV. Qui vous êtes? Qu'est-ce que vous cherchez? L'objectif est toujours de vous démarquer parce que vous êtes plein à chercher la même chose. Le réseau est important parce qu'il est important dans la vie professionnelle comme il est important dans votre vie privée. Il est constitué de personnes qui vont vous aider à progresser dans votre vie professionnelle, à accéder à des informations, à accéder à des opportunités de carrière. Et ça, c'est vraiment l'outil clé qui va vous permettre de développer votre carrière professionnelle.
Bon, pardon Madame LinkedIn, mais ça, tout ça, on le savait un petit peu quand même.
Oui, mais il faut quand même redire des choses un peu basiques, parce que nous, on le sait, mais le réseau, c'est pas évident. Il y a des jeunes qui sont dans des zones rurales, des zones périphériques. Tout le monde ne sait pas comment ça fonctionne, tout le monde ne connaît pas LinkedIn déjà. Et en plus, il y a ce syndrome, parce que LinkedIn a sorti aussi une étude qui dit que 40% des femmes, on le sait qu'il y a ce syndrome d'imposture, mais là, c'est 40% des femmes qui n'ont jamais osé demander une augmentation de salaire, ouais. Qui n'ont pas du tout confiance en elles. Et c'est aussi confirmé par Pôle emploi qui nous dit que les femmes ont tendance à prendre des postes en dessous de leur diplôme. Mmh. Et du coup, de dire à quelqu'un, bah voilà, mettez-vous en avant, mettez une phrase, mettez une photo comme si, c'est capital de le répéter.
C'est très important ce que vous dites, c'est un phénomène très très connu, le syndrome de l'imposteur. Mais il y a davantage de syndrome de l'impostrice que de syndrome de l'imposteur. Les femmes ont moins confiance en elles que les hommes, même j'irai plus loin, les filles ont moins confiance en elles, ontologiquement, que les garçons.
Oui, d'ailleurs on fait venir aussi, c'est une vidéo à voir aussi sur le site de campus.l.fr, une chef chercheuse au CNRS qui s'occupe de déconstruire les stéréotypes et qui explique les stéréotypes genrés et qui explique qu'à 5 ans, toutes les jeunes filles, toutes les petites filles et les petits garçons ont le même genre de rêve, président de la République, médecin, chanteuse. Et puis à 6, ça y est, c'est incroyable, la société a déjà commencé à impacter leur cerveau et les petites filles trouvent, je ne sais pas pourquoi, elles pensent qu'on attend d'elles qu'elles soient nulles en maths, qu'elles soient moins fortes, qu'elles aient pas d'ambition, qu'elles gagnent pas d'argent. Voilà, il y a tous ces stéréotypes qu'il faut absolument déconstruire et on a beau le répéter, on a l'impression qu'avec MeToo, il y a des avancées phénoménales qui ont été faites, mais en réalité non.
J'y pense que vous en parlez, je ne l'avais pas prévu. Aux États-Unis, il y a une étude qui a montré qu'un vêtement de petite fille sur 10 comporte le mot princesse.
Ah oui.
Et donc le mythe du prince charmant à rencontrer, à découvrir.
Oui.
Et donc ça veut dire que son développement ne va pas passer par elle-même.
Oui, et puis après c'est fini, vous épousez le prince et puis la vie c'est terminée, on ne sait pas comment ça se passe.
Si jamais elle arrive à épouser le prince. Alors pour avoir des réponses personnalisées, vous avez proposé aux étudiantes de choisir 3 des 143 professionnels, on les a comptés, qui viennent de tous les horizons. Il y a toute la rédaction de Elle, il y a des vendeurs de pub, des responsables de Pôle emploi pour les guider. Les séances vont démarrer demain. Comment ça va se passer concrètement?
Alors en fait, on a demandé donc à tout le groupe CMI et aussi à nos partenaires donc de proposer une heure à deux à trois de leur temps. Et après, il y a une adresse mail sur campus.l.fr. Les étudiants pouvaient s'inscrire, ça s'est terminé hier, en regardant la liste avec qui ils voulaient communiquer pour leur poser des questions, partager leurs doutes. Mmh. Voilà. Et après, on va nous-mêmes les mettre en contact et organiser ces séances de coaching.
Parmi les corporations présentes, on m'a encore donné des chiffres pour participer à ces conseils. Il y a Google, il y a BFM. Alors Google, il y a 43 intervenants. BFM, un seul, je vais le citer, ça ira vite, Tanguy de Lanlay. Je veux bien entendre qu'il y ait beaucoup, beaucoup d'avenir chez Google, mais quand même, les médias, pourquoi ils sont si peu présents? Ou alors, c'est parce qu'ils ne faisaient pas partie de votre groupe?
En fait, Google, c'est parce qu'on est avec YouTube. Et du coup, voilà, YouTube a été. Ils ont été super.
YouTube qui appartient à Google.
Voilà, oui, pardon. Et du coup, il y a Elodie du coin d'Elodie. On a des YouTubeuses qui se sont investies et c'était important pour nous pour s'adresser à ces jeunes. Et voilà, après, vous savez, c'est aussi une question de timing. Il y a des gens qui n'avaient pas le temps demain. Donc,
BFM TV, ils sont occupés. Beaucoup de vidéos sont réservées aux abonnés EES. Le féminin est bien précisé. Le site est clairement dédié aux étudiantes. Quid des étudiants qui sont également en détresse? Ils peuvent quand même un peu venir chez vous voir ce qu'ils...
Évidemment. Mais on parle beaucoup des hommes. Le magazine Elle est là aussi pour les femmes. C'est important, comme on le disait en rappelant les chiffres de tout à l'heure, que c'est quand même important de mettre l'accent sur le fait que les étudiantes sont en souffrance aussi. Et évidemment que tous les étudiants sont appelés à regarder évidemment ces vidéos.
Alors, à propos de genre, c'est Marion Bonnet, elle est chercheuse à l'Institut National d'Études Démographiques, spécialisée dans les questions d'éducation et de genre. Vous lui avez posé la question, vous l'avez interrogée, et elle dresse un état des lieux pas très glorieux.
C'est assez fou de voir que ce stéréotype de genre selon lequel tout ce qui est un contenu scientifique s'est associé aux garçons et tout ce qui est un contenu plutôt littéraire s'est associé aux filles, ça on le voit déjà en fait dès le plus jeune âge en classe, enfin quand ils ont 6 ou 7 ans. Les filles s'associent beaucoup plus aux lettres et pensent qu'elles sont beaucoup moins intelligentes que les garçons, mais dès l'âge de 6 ans. Et donc, comme l'intelligence est associée à des métiers scientifiques ou à des carrières scientifiques, elles s'en détournent assez rapidement. Et il y a une étude qui est assez effarante qui montre qu'on prend une classe d'élèves de primaire et on leur dit « vous allez faire un exercice de dessin ». Filles et garçons réalisent des dessins et performent de la même manière. Puis dans une autre classe, on leur dit ce sera un exercice de géométrie. Et là, les filles performent bien moins que les garçons. Voilà, c'est le fait d'associer à géométrie, mathématiques, c'est pas fait pour nous et elles paniquent et elles réussissent moins bien nous.
Vous avez fait des études de lettres ou des études de maths?
Moi, j'étais bonne en maths, mais j'ai fait des études de lettres.
Et pourquoi vous n'avez pas fait des études de maths alors que vous étiez bonne en maths?
Parce que ça m'intéressait énormément, la philosophie, j'étais en cagne, ça m'intéressait beaucoup.
Je posais ma question différemment, est-ce que c'était un choix de votre part ou est-ce que vous pensez que c'était le milieu et que c'était quelque chose d'implicite et que vous avez subi ce qu'on est en train là et ce que Marion Bonnet est en train de dénoncer?
Pour le coup, non, je suis d'une famille de matheux, ma mère est prof de maths, mes sœurs ont fait beaucoup de maths, et on fait maths P, mais je crois vraiment qu'en revanche, ce syndrome de l'imposteur, le fait qu'on n'a pas confiance en soi, qu'on se dit, enfin moi jamais j'ai demandé une augmentation, jamais, pardon, je sais pas un message que je suis en train de lancer, mais je veux dire, jamais ça ne me viendrait à l'idée, en fait, c'est dingue, et j'ai honte de le dire, mais je le dis pour que tout le monde se rende compte du problème, c'est que même moi qui suis dans un magazine féminin, je n'ai pas confiance en moi par rapport à des collègues masculins, je pense.
Il y a peu de collègues masculins au L.
Édouard Dutour qui est rédacteur en chef.
D'accord, il y en a un. Mais il n'y en a pas beaucoup, on ne peut pas en citer.
Patrick Williams.
Vous avez travaillé pour le magazine Elle pendant 16 ans. Est-ce que vous avez la sensation ou est-ce que vous avez échappé aux stéréotypes, aux humiliations, voire aux agressions?
Vous voulez dire, est-ce
dans
que...
votre carrière professionnelle?
Dans ma carrière, ben, avant j'étais à la télévision et là j'ai trouvé que c'était plus violent.
Vous étiez où à la télé?
À LCI. C'était une bonne expérience évidemment, mais j'ai énormément de stéréotypes.
Et c'était violent comment?
Ben, violent comment? Violent de... Moi j'ai pas été présentatrice, mais j'ai bien vu que c'était violent pour des présentatrices à qui on disait, toi... T'es sexy, tu peux passer au soir, toi. Enfin voilà, des choses très violentes. Et du coup, j'ai la chance au magazine Elle de pas du tout subir ça. Après, le magazine Elle lui-même subit de la misogynie de la part, je trouve, des parfois des autres médias, parfois du regard que l'on peut porter sur lui. Mais c'est un magazine magnifique et qui est énormément apprécié du public, donc ça va, mais je ressens aussi ça vis-à-vis du magazine.
Merci beaucoup Florence Besson, je le rappelle,
merci
le
vous.
Site Elle Campus reste ouvert sur le net, et puis toute cette opération Elle Campus pendant tout le mois de mars, l'adresse je la redonne, campus.elle.fr, non je la redonne pas, je la donne, c'est la première fois que je la donne, campus.elle.fr. Merci d'avoir été avec nous.